En compagnie de Raphaël Cuir, qui préside la section française de l'Association internationale des critiques d'art. Et il a bien voulu se prêter au jeu de répondre à quelques questions et surtout aussi d'intervenir par rapport à un contexte en France particulier d'œuvres qui sont détruites, abîmées sur l'espace public. L'œuvre de Paul McCarthy, l'œuvre de Anish Kapoor dernièrement, et puis bien entendu les pressions de plus en plus fortes d'associations qui se constituent pour tenter d'empêcher l'exposition d'une œuvre. Ce sont des formes de pression morale qui encourent en ce moment. Comment vous interprétez ces pressions en cours aujourd'hui, Raphaël Cuir?
Je pense qu'on est dans une société qui a tendance à se fermer sur elle-même. Donc, il y a un manque manifeste d'ouverture à l'autre. C'est ce que j'entends dans les propos de Marion Maréchal-Le Pen à l'université d'été du FN. C'est-à-dire que quand elle utilise cet argument d'anti-intellectualisme primaire, qui est un classique du discours réac et populiste, ce qu'on entend avant tout, c'est son manque d'ouverture à l'autre. Et son manque d'ouverture en général, d'ouverture d'esprit, qui est en fait juste le reflet de sa position globale dans la société. Elle est juste fermée à l'autre et fermée. Elle veut fermer les frontières. Enfin voilà, il y a une fermeture d'esprit caractéristique, et je pense que l'art de tout temps demande une ouverture d'esprit. Et comme disait Proust, il y a autant de monde au fond qu'il y a d'artistes. Donc pour comprendre l'art, pour découvrir l'art avec intérêt, il faut faire un petit effort et aller vers lui et juste faire l'effort de le comprendre comme on fait l'effort de comprendre l'autre, qui peut avoir une langue différente, par exemple, et qu'on ne rejette pas juste comme ça avec ses préjugés, en fait. Donc c'est ça que je trouve inquiétant, en fait. Cette fermeture d'esprit, globalement.
Et quand on entend aujourd'hui les propos du Front National, on sent revenir tout un débat qui s'est ouvert avec la revue Esprit en 1991, qui se posait un certain nombre de questions sur les appréciations esthétiques de l'art. Et puis, c'était suivi un certain nombre d'articles avec des titres très violents, Le Grand Bazar, L'Art Triste, Le Complot de l'Art, La Guerre de l'Art. Il était dit que l'art contemporain était ennuyeux, qu'il n'avait pas de forme, qu'il n'avait pas d'émotion avec l'art contemporain, que c'était de la pure création du marché, que c'était l'élitisme, qu'un enfant de 5 ans pouvait faire cela. Ce sont aujourd'hui tous ces titres et tous ces attaques qui sont dans la bouche aujourd'hui du Front National.
Oui, c'est-à-dire que c'est finalement, de même qu'il y a une sorte de discours raciste décomplexé qui s'autorise à dire des choses qu'on pensait ne plus pouvoir entendre, c'est la même chose avec l'art contemporain finalement. À nouveau, on se croit autorisé justement à dire, enfin, à lancer des sentences gratuites comme ça et qui jettent un peu le bébé avec l'eau du bain, alors que c'est une idée fausse de faire croire, par exemple, que l'art de tout temps n'a pas nécessité une culture. Si vous avez une sculpture d'un jeune homme qui court après une jeune femme qui se transforme en arbre, vous pouvez imaginer tout un tas de choses. Mais si vous ne savez pas que ça fait référence à la mythologie grecque et aux métamorphoses d'Ovide, vous passez complètement à côté de l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a des critiques d'art et des historiens de l'art. Je pense qu'ils sont des passeurs et ils sont des interprètes des œuvres qui guident ceux qui n'ont pas le temps de s'y consacrer suffisamment, je dirais, pour une compréhension plus rapide. Mais en même temps, il faut, voilà, on revient à cette idée d'ouverture d'esprit. Il faut avoir envie de découvrir l'autre. Il faut accepter la nouveauté aussi dans la société comme dans l'art. Et surtout, il ne faut pas partir d'une prédéfinition de l'œuvre d'art, parce que l'œuvre d'art, elle évolue sans cesse avec la société. On ne fait pas les mêmes œuvres à l'ère de l'aviation, du nucléaire, d'Internet qu'on faisait dans l'Antiquité grecque.
Il y a aussi le fait que ces dernières années, on demande à l'art de créer du lien. Au fond, est-ce que justement tout l'enjeu de l'art, ce n'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire de délier là où c'est lié?
Effectivement, là, l'art peut avoir une fonction de mise à distance. du monde dans lequel on est immergé, et donc en ce sens de délier les nœuds, là où on manque de clairvoyance, c'est une sorte de regard biaisé qui peut aider à voir clair, à prendre du recul, à comprendre des situations qui nous échappent, ou en tout cas à les voir, au moins à sortir peut-être un peu du bocal pour regarder ce qui s'y passe, quoi.
Pendant longtemps aussi, c'était l'expérience de la production de l'art qui comptait. C'est-à-dire que c'était davantage l'expérience de faire de la musique plutôt que l'expérience d'écouter de la musique qui était premier. Est-ce que le fait qu'on soit dans cette époque où c'est l'expérience de l'écoute de la musique qui domine et que du coup, cela exacerbe en fait cette question du goût?
Mais je pense qu'il faut être conscient d'une chose aussi, c'est que finalement l'art n'a jamais été moins élitiste qu'aujourd'hui. En vérité, c'est encore extrêmement démagogique de prétendre que autrefois l'art était accessible à tous, populaire, et que aujourd'hui il serait devenu tellement élitiste, intellectuel. C'est absolument faux. Bon, je l'ai évoqué juste à l'instant. Il faut une culture pour comprendre l'art à toutes les époques, mais surtout quand l'art était commandé par les princes, eh bien, bien évidemment, la majeure partie de la population n'avait pas accès à l'art. C'était juste un supplément pour une élite. Donc aujourd'hui, il faudrait au contraire se féliciter et se réjouir de la diversité des créations, de l'extrême vivacité de la culture et de l'accès de tous, je dirais, à tous les niveaux. C'est-à-dire que, à la fois pour pratiquer une forme d'expression artistique, que pour aller voir des expositions, découvrir l'art, les créations des autres, écouter. Donc je trouve qu'on vit une période de ce point de vue très riche, et c'est d'autant plus dommage que certains esprits refermés cherchent à débarrasser l'espace public de tout ce qui les dérange. Comme si vivre ensemble en régime démocratique, ça n'était pas tolérer la différence, y compris les choses qu'on ne comprend pas ou qui nous déplaisent, mais en considérant qu'il peut y avoir un débat, et un débat démocratique, ça ne consiste pas à vandaliser les œuvres qui nous déplaisent.
Tout à l'heure, vous avez parlé de cette décontraction là, qui est à l'œuvre. Il y a eu aussi, on se souvient, lorsque c'était Nicolas Sarkozy qui était président, cette fameuse intervention ou lettre où il avait d'une certaine manière signé, acté l'échec de la démocratisation culturelle, qu'il fallait passer à autre chose. Et aujourd'hui, c'est exactement aussi les propos repris par le Front National lorsqu'il demande ou il exige un art populaire. Ce serait pour répondre aussi à cet échec de la démocratisation culturelle.
Mais là encore, c'est prendre les choses à l'envers. En fait, ça fait des années, des décennies qu'on parle d'enseigner la culture à l'école, et le gouvernement actuel a fait des efforts dans ce sens, mais il fait des efforts dans un contexte où les moyens économiques manquent. Donc on demande au même corps enseignant d'ajouter une corde à son arc, en quelque sorte, et d'être capable d'enseigner l'histoire de l'art, l'art contemporain, alors qu'il faudrait un enseignement spécifique de la culture en général, c'est-à-dire vraiment qui puisse comprendre toutes les formes d'expression corporelle, d'expression culturelle et corporelle, que ce soit la danse, la musique, le théâtre, les arts visuels en général, y compris le cinéma, bien sûr. Et donc ça, c'est un outil intellectuel, un outil critique, un outil de construction de soi qui manque cruellement. Alors évidemment, ça veut dire que dans l'imaginaire populaire, je sais pas très bien ce que c'est l'imaginaire populaire, mais disons, pour aller vite, probablement l'art en est resté à ce qu'il était au moment des impressionnistes, en gros. Or, il y a eu depuis une espèce de révolution dans l'art avec Marcel Duchamp et le ready-made qui a changé complètement le statut de l'œuvre d'art. Il faut dire qu'il y a un certain nombre d'inventions aussi qui sont passées par là, celle du cinéma bien sûr, et avant celle de la photographie, donc qui ont changé complètement la manière d'appréhender, de concevoir l'œuvre d'art. Et tout ça, si on ne l'enseigne pas, évidemment, chacun est livré à soi-même, et c'est, voilà, il faut être autodidacte, où on passe complètement à côté de ces phénomènes culturels qui ont une histoire, qui ont des racines, n'en déplaise voilà, au Front National, justement.
On a l'impression que la postmodernité ne veut pas passer ici.
Alors, on considère qu'elle est même dépassée, hein, c'est-à-dire qu'on est encore déjà dans un autre registre, on est ailleurs que dans cet état d'esprit de la postmodernité, hein, qui était l'absence de modèle dominant, mais la possibilité de puiser dans le fond, dans le patrimoine commun, à toutes les époques en les mélangeant, un peu comme on avait déjà eu avec la période historiciste à la fin du 19e. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est évidemment difficile de mettre un nom sur la période dans laquelle nous sommes. Hein. On a divers vocables. Nicolas Bruyot a proposé les haltères modernes. Il y a vraiment post-modernité. Voilà, néo-modernité, j'ai entendu aussi. Bon. Mais je pense que l'important, c'est peut-être de voir qu'on est dans un moment aussi où. Au fond, on peut basculer vers les pires démons de l'Europe qu'on a bien connus et qui se remanifestent de la manière la plus inattendue, je dirais, même si Attali nous explique que voilà, l'histoire elle est cyclique et qu'on voit des phases se répéter de manière périodique. On voit des esprits extrêmement étriqués, fermés sur eux-mêmes. Prendre la parole pour exprimer des idées qui sont très rances. Et on a aussi le choix d'aller vers une plus grande ouverture d'esprit, une meilleure compréhension de l'autre, un village global que le monde tend à être, à devenir, même si ça se fait de manière extrêmement heurtée et compliquée. Et voilà, j'espère qu'on fera les bons choix, mais on a une période extrêmement ouverte et riche à certains égards en termes des moyens en fait. Hein. Ça n'a jamais été aussi simple de voyager, l'information n'a jamais été aussi accessible, même si ça devient extrêmement difficile de séparer le bon grain de l'ivraie, hein, de trouver dans l'information la vraie information, celle qui n'est pas une intox ou une information tellement partielle qu'elle en devient presque erronée. Enfin, voilà, c'est difficile de se repérer, mais en même temps, une accessibilité extraordinaire, je dirais.
Association internationale des critiques d'art, je disais que vous en présidez l'antenne française, disons. C'est donc aussi que vous pouvez comparer avec la situation dans d'autres pays. Comment ça se passe ailleurs, ces dynamiques de censure, de pression, de tentative de vouloir, il faut le dire clairement, contrôler la création?
Eh bien, effectivement, ça se passe assez mal dans beaucoup d'endroits dans le monde aujourd'hui. Hein. Ça se referme énormément en Turquie, comme vous le savez. Il y a quelques années, c'était nos collègues hongrois qui nous alertaient sur les risques, là aussi, d'un retour en arrière et d'une fermeture à tout ce qui était contemporain, tel qu'on l'entend depuis un siècle à peu près, enfin, en gros, pour aller très vite. Mais donc, il faut être plus que jamais vigilant sur ces questions. Et en même temps, on aimerait parfois qu'il y ait une plus grande mobilisation des gouvernements. Il n'y a pas longtemps, je crois la France a conclu des marchés juteux avec l'Arabie Saoudite qui maintient en prison des blogueurs, Raïf Badawi en premier lieu, hein, condamné à mort en premier jugement, puis condamné à 10 ans de prison et finalement à 1 000 coups de fouet également. Heureusement, il ne les a pas encore eus et j'espère qu'il ne les aura jamais, mais il en a quand même eu une cinquantaine auxquelles il a survécu miraculeusement. Enfin, c'est très violent ce qui se passe dans le monde de ce point de vue. Et nous, dans nos missions à l'AICA, nous avons celle de veiller à la liberté d'expression et d'essayer de la défendre partout dans le monde.
On a le sentiment qu'aux États-Unis, ça se passe tout autrement.
Ben, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on est moins dans ces débats d'arrière-garde. Bien sûr, ce que je vais dire risque d'être très schématique parce que c'est une société très complexe, les États-Unis, ils ont aussi leurs conservateurs, mais je dirais que l'art a pu être instrumentalisé à une certaine époque. On se souvient de la. Enfin, le gouverneur Jesse Helms avait instrumentalisé les œuvres d'Andrés Serrano de Mapplethorpe pour alerter sur l'utilisation de financements publics, puisqu'ils avaient eu des bourses de soutien. Mais c'était un phénomène très très ponctuel quand même aux États-Unis. On a l'impression qu'il n'y a pas dans la société un débat d'arrière-garde sur l'art contemporain qui serait du n'importe quoi. Je pense que les gens s'y intéressent ou ne s'y intéressent pas, mais il n'y a pas cette espèce de débat rance sur un art qui serait inadapté à la société et à nos attentes.
Il est vrai qu'il y a une collusion très complexe entre l'art aujourd'hui et puis les marchés financiers. Comment y répondre à ces accusations qu'aujourd'hui l'art contemporain ne serait que pure création du marché?
Bah, je pense que on en revient au même raisonnement, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est de former le public, c'est de donner une vraie culture. À partir de là, chacun peut se faire son idée, avoir un intérêt pour certaines œuvres et pas pour d'autres. Je pense que l'un des versant négatif de la très grande diversité dans l'art d'aujourd'hui, bah c'est aussi qu'il y a des formes d'excès, il y a des formes de maniérisme, d'académisme, il y a des œuvres qui ne sont pas intéressantes, mais il y en a suffisamment pour que chacun y trouve des œuvres tout à fait passionnantes et qui nous donnent à voir le monde autrement, comme je l'évoquais, et qui apportent un regard autre qui sont extrêmement, enfin, qui témoignent de l'engagement des artistes, de l'authenticité de leur approche. Donc, je pense qu'il y a, oui, des excès dans tous les sens, y compris ceux du marché, mais il y a beaucoup encore beaucoup d'artistes qui ne sont pas dans la tentation simplement de fabriquer pour le marché des produits haut de gamme.
Lorsque certains disent devant telle œuvre, tiens, un enfant de 5 ans aurait pu la faire, ce qu'on entend derrière, en fait, c'est que ils ne reconnaissent pas de travail. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, quelque chose qui se fait sans travail. Cette question du travail, là aussi, souvent est accusée que les artistes, en fait, voilà, ne travaillent pas.
Oui, mais ça fait partie de ces préjugés qui en fait, ratent complètement le nouveau modèle de l'art qui est largement au-delà de la question du faire. Ça n'est plus ce qu'on apprécie dans l'œuvre d'art, ça n'est plus nécessairement, ça peut l'être, mais ça n'est plus nécessairement le faire de l'artiste, la technique. Pendant des siècles, l'œuvre d'art, elle se distinguait par le style de l'artiste au sein d'un modèle extrêmement dirigiste, on pourrait dire, hein, extrêmement étroit. On représentait des œuvres qui avaient trait à des scènes de la Bible, à des scènes de la mythologie grecque, et à l'intérieur de ces canevas bien établis, avec des programmes déterminés par les commanditaires, on avait l'expression du style de l'artiste qui, évidemment, venait de sa manière propre de peindre, qui parfois était un travail d'atelier, donc avec celui qui, au sein de l'atelier, comme on le sait bien pour Rubens par exemple, au sein de l'atelier, celui qui faisait les paysages, celui qui peut-être faisait les mains le mieux, et puis ensuite le maître qui venait mettre la dernière touche. Donc je pense que c'est à la fois une idée qui mérite d'être relativisé, hein, l'importance de la main de l'artiste et de son faire, et puis qui est plus du tout pertinente aujourd'hui. On n'est pas dans. Aujourd'hui, on peut apprécier la qualité d'un objet, même s'il a été fait par une machine. C'est plus du tout le problème. Un objet peut avoir des qualités esthétiques sans avoir été fait par une main humaine. Donc on est tout à fait au-delà de ces considérations. C'est poser à l'art contemporain des questions qu'il ne se pose pas que de revenir avec ce genre de questionnement.
C'est vouloir aussi un travail au sens d'un travail tel que là aussi on voudrait l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire un travail salarié ou un travail d'un ouvrier, c'est-à-dire cette question du faire quand on sait que dans le champ du travail, ça ne se fait plus non plus uniquement à l'endroit du geste de la main.
Oui, alors ça, c'est encore une sorte de contradiction parce que d'une part, la société a évolué avec de plus en plus de travail dans le secteur tertiaire et finalement, l'artiste aujourd'hui suit ce mouvement général de la société et très souvent, il travaille dans son ordinateur, il conçoit des projets que d'autres vont exécuter. Et ça lui donne une capacité à créer des œuvres extrêmement diverses, aussi diverses qu'il le souhaite. Et il n'est pas obligé d'apprendre à sculpter sur le marbre chaque fois qu'il veut créer une sculpture en marbre, mais il peut la faire exécuter suivant ses plans, ses décisions, et c'est lui qui reste, ou elle, qui reste le décideur, le concepteur et l'artiste vraiment qui signe l'œuvre. Mais c'est en même temps un paradoxe parce que pour avoir le statut d'artiste et non plus d'artisan, au XVIIe, les artistes ont dû se défaire du travail manuel et ont dû prouver avec des sortes d'ambassadeurs à la cour, hein, ont dû prouver qu'ils n'étaient pas dans la fabrication artisanale, mais que l'art était causa mentale, comme disait Vinci, et que donc il était un art qu'on faisait en se détachant du souci matériel aussi. Concevoir des œuvres, ça n'était pas, il y avait une sorte de statut particulier, ça rentrait dans les arts libéraux, hein. Mais là, ça nous mènerait peut-être un peu loin, mais c'est vrai qu'il a fallu que, pour obtenir ce statut d'artiste, les artistes se détachent de l'artisan, hein, et des corporations dans lesquelles ils étaient enfermés.
Merci beaucoup, Raphaël Cuir. Je rappelle que vous présidez la section française de l'Association internationale des critiques d'artistes. Merci.
Merci à vous.